RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
On est ensemble jusqu'à 17h, on revit les moments forts de ce tour 2014. Pour l'instant, on a eu 10 étapes. Vous savez que les joueurs sont les coureurs sont au repos aujourd'hui du côté de Besançon. On y sera en direct à partir de 17h avec Fred Adam. Tout de suite, retour sur la 8e étape. On est entre Tomblaine et Gérardmer avec à l'arrivée un Français qui gagne en solitaire.
De Sylvain Chavanel qui se met en danseuse, le coureur de l'équipe YAM, c'est Blaise Cadry tout de suite qui tente de se mettre à sa poursuite et qui réagit juste derrière lui. C'est un peu plus difficile pour Adrien Petit notamment. Est-ce qu'il a fait l'écart? Blaise Cadry qui s'envole et derrière lui Petit en difficulté. Chavanel a pris un peu d'avance, ça ne réagit pas tout à fait du côté de Terpstra. Petit et Yates, il essaie de prendre quelques longueurs d'avance. Sylvain Chavanel avec il a pris cette longueur d'avance, il l'a pris cette longueur d'avance, une cinquantaine de mètres. Cadry qui tente de suivre et derrière les trois anciens compagnons d'échappée, Yates, Petit et Terpstra qui plafonnent un petit peu.
Et voilà, l'amateur de gros cubes Sylvain Chavanel a lâché les chevaux. C'était prémédité, c'était annoncé. Effectivement, il est un coureur d'expérience, âgé de 35 ans. Il sait que face à un très jeune et très véloce Simon Yates échappé avec lui, il doit anticiper le mouvement. Sylvain Chavanel, c'est un coureur qui a déjà remporté 3 étapes sur le Tour à Montluçon en 2008 et puis 2 en 2010 à Spa en Belgique, non loin du circuit de Francorchamps, et au Rousse un peu de la même manière. C'était en 2010 également. Sylvain Chavanel qui a accéléré au métier. On est dès le pied de ce col de la Croix des Moinas et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il est parfaitement dans son registre, Sylvain Chavanel. C'est ce qu'il fallait faire parce que l'écart est en train de fondre vraiment. 5 minutes 30, dernier pointage sur l'avant-garde du peloton. Un peloton emmené en file indienne désormais par les coureurs au maillot bleu de l'équipe Garmin, l'équipe américaine qui compte dans ses rangs Andrew Talansky, le dernier vainqueur du Dauphiné libéré, qui apparemment a sonné la charge. Talansky qui nous a gratifié hier dans le sprint final d'une jolie figure. Apparemment, il ne s'en ressent pas trop. En tout cas, ce sont bel et bien les Américains qui mettent la pression et devant, ils ont bien raison de se lâcher.
22 km de l'arrivée, Cadry qui est en train de lâcher Chavanel, Fred.
Blaise Cadry est en train de décrocher Sylvain Chavanel. 4 minutes 40 d'avance. Chavanel qui peut-être accumule le poids des âges, 35 ans. Il visait aujourd'hui une 4e victoire d'étape sur le Tour sur sa carrière. C'est lui qui a déclenché les hostilités au pied du col de la Croix des Moinas et c'est lui qui est en train de payer la note. Blaise Cadry est en train de voler vers la victoire ici à Gérardmer.
Blaise Cadry fait un beau numéro, Cyril. Hein.
Ah, il est parfait son numéro et la victoire ne peut pas lui échapper maintenant, sauf bien sûr même avec une crevaison, il a encore le temps de gagner.
Il faut qu'il gère, hein, Cyril. Minutes. Il faut pas qu'il prenne de risque dans la descente.
Il connaît parfaitement le parcours, voilà. Qu'ils l'ont reconnu.
Blaise Cadry qui va donc remporter cette étape. Il est encouragé actuellement par son directeur sportif qui lui tient la main. De belles images. Je sais pas si Georges est encore au contact de l'homme de tête.
Oui, si, avec Blaise Cadry qui s'est porté à sa hauteur. Julien Jourdi qui est venu à la hauteur de Blaise Cadry, de son directeur sportif. Il passe à l'instant sous la banderole indiquant les 800 derniers mètres. Ils se sont tapés dans la main, il se remet en danseuse. Blaise Cadry encouragé évidemment par les supporters français qui sont nombreux sur le bord de la route.
Ouais, Georges, attention parce que derrière ça attaque, les hommes de Contador à l'attaque.
Oui, pas encore d'attaque franche de la part de Contador, mais effectivement il y a un Nicolas Roche tout dans dehors, l'Irlandais, coéquipier du grimpeur espagnol qui est en train de faire un forcing au pied de la dernière difficulté du jour. Nicolas Roche qui est en train de vider le réservoir comme disent les coureurs, il va s'écarter sur la droite ou la gauche de la route pour permettre à Contador et Nibali de s'expliquer entre eux, grands dans des pentes qui avoisinent les 13% de déclivité dans quelques instants. Ça va s'expliquer entre grands.
Blaise Cadry à quelques encablures de l'arrivée. Georges, la moto RMC.
Ouais, on est juste à côté du directeur sportif de Julien Jourdi. Voilà qui nous fait un signe de la main droite, un pouce en l'air pour nous dire que c'est bon pour son coureur, pour Blaise Cadry. Le sourire, ouais, de son directeur sportif, ça nous rappelle évidemment les scènes de l'année dernière quand Christophe Riblon, l'équipe AG2R la mondiale, s'était imposée au sommet de l'Alpe d'Huez. C'était son directeur sportif également qui était là, qui était venu à sa hauteur, et c'est encore un coureur d'AG2R qui arrive dans les derniers 500 derniers mètres
pour Blaise Cadry. On va dans dans un instant le voir franchir la ligne d'arrivée. Derrière, il y a des hommes en difficulté, Fred.
Nicolas Roche s'est écarté, bien sûr. Franck Schleck, le champion du Luxembourg, est passé par la fenêtre. Il y a également Jürgen Vandenbroek qui est en souffrance, le grimpeur belge, leader de l'équipe Lotto Bellisol, est devant. Donc Nicolas Roche s'est écarté et ce ne sont pas Nibali et Contador qui sont en première ligne, mais Benat Inchausti, un coéquipier de Alejandro Valverde, et Jean-Christophe Perrault est en train d'accélérer. Il mène le peloton avec TJ Van Garderen, l'américain de l'équipe BMC. Nibali est en troisième position, quatrième Valverde, cinquième Contador, sixième Bardet et septième Thibaut Pinot. Il ne reste que 8-9 coureurs dans ce groupe maillot jaune.
L'Alcadri va remporter dans quelques instants la huitième étape de ce Tour de France. C'est la première victoire d'étape française de ce Tour. Il prend le temps. Attention, attaque de Contador, Fred.
Sur la droite de la route, pas franchement franche, sous la banderole du dernier kilomètre. Il se retourne. C'est comme une première injection avec dans sa roue Vincenzo Nibali. Il fait mal à tout le monde. Alejandro Valverde tente de s'accrocher. Richie Porte est en quatrième position. Nibali est encore au marquage de Contador. Ces deux-là sont en train de s'envoler dans la dernière montée. L'explication entre Grand a bel et bien lieu entre Contador et Nibali.
La victoire de Blancabri, ça y est, il va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Le premier Français a remporté une victoire d'étape sur les routes de ce Tour. Grand sourire, il lève les bras, ça y est, c'est gagné pour Blancabri de la formation AG2R, la mondiale, première victoire d'étape française. Allez, on retourne à l'arrière avec la bagarre entre Nibali et Contador.
Ils sont deux, ils se regardent, ils s'observent et Nibali reste dans la roue de Contador. Est-ce que Nibali va mettre un coup de poignet à Contador dans les derniers hectomètres? Pour l'instant, seul Richie Porte est en train de revenir de l'arrière. Contador et Nibali qui nous rappellent les grandes heures du duel Contador-Andy Schleck en 2010. Nibali n'est absolument pas mis en danger par l'accélération de Contador et Contador est en train de comprendre qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui.
Ouais, il a l'air très facile, Nibali, Cyril. Hein,
oui, il me paraît très facile. Ah, je ne suis pas certain qu'il ne va pas en placer une dans les 200 ou 300 derniers mètres.
Nibali est en train de monter dans un fauteuil dans la roue d'Alberto Contador. Il est en train de l'écœurer, il est en train de le décourager de porter une nouvelle attaque.
Nibali.
Nibali est peut-être en train de gagner le Tour de France à l'intox. Il est en train de lui manger le cerveau au grimpeur espagnol. Et Contador vient d'accélérer, mais on est dans les 100 derniers mètres. Il va lui reprendre des poussières. Il va lui reprendre 3-4 secondes. Rien du tout par rapport à ce qu'il aurait pu faire en attaquant plus tôt. Nibali lui a montré que ce n'était pas la peine d'accélérer de loin. Derrière, Richie Porte est en train d'en terminer. Les Français franchissent la ligne à l'instant. Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault. Romain Bardet est un peu plus loin. Alejandro Valverde est en train d'en terminer. Tout cela est quasiment dans un mouchoir de poche en 20 secondes à peu près. Van Garderen est en train d'en terminer. Romain Bardet a coincé un petit peu dans le final. Il lâche près de 25 secondes à Contador et Nibali. Derrière, on aperçoit Bauke Mollema. Et puis, il y aura Rui Costa, le champion du monde. Tout cela, c'est dans l'ordre de passage sur la ligne d'arrivée. Vous avez la hiérarchie bien établie dès la première étape des Vosges.
On va s'intéresser au héros du jour, héros français, Blancabri, le coureur de la formation AG2R, la mondiale, qui s'est donc imposé tout à l'heure. On va tout de suite écouter son témoignage. Évidemment, grand sourire pour le coureur français.
J'y ai cru quand mon directeur sportif, Julien Jordi, est venu à ma hauteur et m'a dit: Blel, tu as une trentaine d'avant, je crois, il m'a dit. Tu gères ta descente, t'as gagné. C'est là que j'ai franchi la ligne avec tout ce public, ces photographes. C'est tout simplement énorme. C'est mon jour de gloire. Je l'attends depuis un moment. Je me bats pour ça et je dis toujours, enfin, un gars comme Christophe Riblon, ça reste un exemple pour moi. Et dans les moments comme aujourd'hui, j'y ai pensé. Et voilà, d'être tenace, de rien lâcher. Et un jour, la roue tourne. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon jour. Donc, je suis très, très content d'apporter cette victoire à l'équipe.
Ouais, les roues de Blancabri ont bien roulé aujourd'hui, effectivement. Il prend exemple, il a pris exemple sur son coéquipier Christophe Riblon, qui, on s'en souvient, l'an dernier avait remporté lui aussi une étape de prestige en s'imposant à l'Alpe d'Huez. Thierry, Blancabri, beau coureur et qui a fait la course parfaite aujourd'hui, hein, notamment en répondant à l'attaque de Chavanel et ensuite en lâchant le Français, son compatriote. Il a été énorme, Cadri.
Ah oui, on a vu déjà, il est sorti à contre-temps et il a pu rentrer, il a senti le coup, mais il fallait pouvoir le faire parce que ça a roulé, je vous rappelle, la première heure à plus de 50 km/h. Donc non seulement c'est un bon grimpeur, mais c'est un rouleur complet qui a su prendre sa chance. Et au départ, ben oui, on l'a vu un peu se décrocher, avoir un peu de mal à rentrer sur Chavanel, mais c'était sa première bosse. Et ensuite, il s'est mis au train, à son train qui était assez élevé, et on l'a vu vraiment bien finir.
Ouais, bien finir pour remporter cette étape. Évidemment, Cyril, ça vous change un homme, hein, de remporter une telle étape dans le Tour de France, étape de montagne, étape très attendue, puisqu'on attendait toujours une victoire d'étape française depuis le début de ce Tour. Ça va lui changer la vie, notre ami Kadri.
Il ne s'en est peut-être pas encore rendu compte, mais oui, que ça va lui changer la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la victoire de Thibaut Pinot à Porrentruy il y a 2 ans. Ça lui a changé la vie. Ça lui a peut-être aussi un petit peu pourri par la suite. Mais c'est vrai que Kadri tournait autour d'une étape du Tour. Rappelez-vous, l'an dernier, il était échappé en compagnie d'un coureur dans un groupe où il y avait Rui Costa. Et ce jour-là, il a fait quand même une grosse boulette au niveau stratégie. Il est sorti avant le dernier col, il a été rejoint dans le dernier col, Rui Costa est sorti et il est allé gagner l'étape à Gap. Et je pense que si Kadri avait tout simplement attendu la dernière ascension et attendu l'attaque de Rui Costa, il pouvait l'accompagner et pourquoi pas remporter sa première victoire à Gap. Bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Il s'est un petit peu nourri de cette défaite l'an dernier à Gap pour aller chercher la victoire cette année. De toute façon, quand on a du talent, qu'on n'a pas peur d'aller dans les coups, dans les étapes difficiles, un jour ou l'autre, ça doit rigoler.
Oui, parce que c'est pas le même genre de... On sait que de temps en temps, les grands raids comme ça, dans les étapes de montagne, avec 4-5 cols remportés par un coureur français, le lendemain, souvent, on paye l'addition. Mais là, Thierry, en l'occurrence, tu le disais tout à l'heure, les difficultés étaient concentrées sur la fin de l'étape, 20 km. Alors, il a beaucoup donné, mais demain, il peut encore peut-être pas faire l'étape, mais en tous les cas, aller chercher des points dès les premiers cols de la 9e étape.
Oui, parce qu'on a bien vu, cet échappé a géré correctement puisque le peloton l'a laissé partir jusqu'à 11 minutes d'avance. Donc là, on s'est dit bon, tranquille pour cet échappé. Le vainqueur est parmi eux et c'était sans compter sur certaines équipes et la pluie surtout qui a un peu énervé tout le monde derrière. Et eux qui se la jouaient un peu douce, on a eu un peu peur. Ils ont tellement géré qu'ils ont failli tout perdre.
Hein. Bah, y a que toi qui as eu peur, hein, parce que moi, j'ai jamais eu peur.
Mais toi, t'as jamais eu peur, mais jamais, mais bien sûr.
Ah non, j'ai jamais eu peur.
Il y en a quelqu'un qui est arrivé au bout.
J'ai jamais eu peur que le vainqueur soit dans l'échappée à partir du moment où il y avait un tel écart.
Mais après, la course s'est stabilisée dès qu'on est arrivé dans l'école. Hein.
Bah, la première ascension, à partir du moment où Kadri a mis en route, il est revenu sur Chavanel et à partir du moment où il a déposé Chavanel jusqu'au sommet, il a dû perdre 4 ou 5 secondes, c'est tout. Il a en fait plus perdu dans les descentes que dans les montées, sauf la dernière où de toute façon là il avait plus qu'à dérouler.
On va écouter tout de suite le manager, la formation AG2R la mondiale, Vincent Lavenu, qui évidemment était ravi après le succès de Riblon l'année dernière. Et bien aujourd'hui c'est un autre de ses coureurs, Blaise Kadri, qui remporte donc cette étape. L'hommage de son manager à Blaise Kadri.
Ben Blaise, c'est un garçon qui est très doué à la base, hein, puisque je rappellerai qu'il a gagné le challenge français des cadets, des juniors, des espoirs. Il a gagné 2 coupes du monde chez les juniors tout de même, donc on en gagne une, c'est ok. 2, ça veut dire qu'il y a quand même des grosses qualités derrière. Il est passé professionnel avec, on voyait, un joli talent. Il a commencé à progresser. Une année, il fait un très très bon Dauphiné. Et puis, il a subi une grave chute à Paris-Nice il y a 3 ans de cela. Fracture de omoplate, traumatisme crânien. Ça l'a arrêté qu'à un bon moment. Il a eu du mal à se remettre dans le bain, notamment en ce qui concerne l'adresse et la capacité à frotter dans le peloton. Il a mis du temps, on lui a laissé le temps et on lui a fait confiance parce qu'on sait que c'est un garçon qui a de belles qualités. Il a surtout des qualités de puncher qui lui permettent de sortir quand il faut sortir. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et c'était le moment d'y aller, donc il fallait être capable d'y aller. Donc voilà, c'est un garçon qui est pétri de qualité.
Voilà, garçon pétri de qualité, nous dit Vincent Lavenu. On s'en est aperçu aujourd'hui sur les routes de cette 8e étape. Blaise Kadri, dont parlait tout à l'heure Cyril Guimard, qui désormais est également porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. Bon, certes, on n'a pas encore atteint les sommets des cols de ce Tour de France, mais tout de même, 17 points. Alors, peut-il espérer ramener le maillot à poids à Paris? Thierry, toi qui étais un grand grimpeur, dis-nous ce que tu en penses et dis-nous si, à ton avis, ça peut être un objectif pour Blaise Cadry.
Bah, ça le devient, parce que aujourd'hui, à quelque part, quand il a vu l'avance qu'il avait au pied de la première du premier col, il savait qu'il y avait un point d'écart pour aller prendre ce maillot. Il est allé chercher ce maillot, mais chercher l'étape sur la fin. Et à partir d'aujourd'hui, eh ben, il l'a sur le dos et ça sera difficile d'aller lui enlever. Il n'y a que les grands qui vont pouvoir, s'ils se font la bataille dans les étapes alpestres et des Pyrénées, qui vont pouvoir lui reprendre des points. Mm-hmm. Parce que on le sait, c'est un bon grimpeur et comme dit Cyril, dès demain, il peut aller chercher les points dès le premier grimpeur, puisque on part au pied de ce col. Ça sera relativement facile s'il a récupéré, mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, 20 km de bosse, ça ne va pas lui rester dans les jambes.
Ah oui, Blaise Cadry qui
voudrait...
Il
y a peut-être aussi une légère décompression après une victoire d'étape. Donc,
oui,
c'est
la question
à
que je te posais tout à l'heure.
Il faut qu'il garde un peu cette niaque.
Mais est-ce qu'on se ressent de ses efforts le lendemain d'une étape et d'une victoire d'étape? Ou alors, comme le disait Cyril, est-ce qu'on peut jouer, surfer sur l'euphorie?
L'euphorie, c'est clair, il a gagné, donc le mal aux jambes, c'est pour les autres, hein, c'est pas pour lui. Mais c'est surtout qu'il ne décompresse pas, parce qu'on a tendance à un peu s'éparpiller, aller à droite, à gauche, faire les interviews, se perdre un petit peu en discutant, en restant debout. Je pense que dans son équipe, on va le ramener à une certaine réalité, et puis le remotiver pour garder ce maillot.
16h22 sur RMC, on est en train de revivre les meilleurs moments de ce Tour de France. On vient de parler de la victoire d'un Français, Blaise Cadry. Dans un instant, on parle d'un autre Français en jaune, Tony Gallopin, qui va récupérer le maillot lors de la 10e étape. C'était entre Gérardmer et Mulhouse. Et puis à 17h, on sera en direct de Besançon pour la journée de repos avec Fred Adam et la Dream Team.
RMC, Intégral Tour. RMC, Intégral Tour. Martial Fernandez.
Les meilleurs moments du Tour 2014 des 10 premières étapes, c'est jusqu'à 17h. On est ensemble pour cette journée de repos du Tour de France. On sera à Besançon en direct à 17h. Un petit plaisir. En attendant, revit la prise de maillot jaune du Français Tony Gallopin. C'était dimanche dans l'Intégral Tour.
Tony Gallopin, le Français de l'équipe Lotto Bellisol, qui est virtuel maillot jaune, lui qui comptait 3 minutes 27 de retard sur Vincenzo Nibali ce matin au départ de Gérardmer. Tony Gallopin lancé en contre-attaque avec un autre Français, Michael Gérel. Il a fait la différence sur un groupe de contre-attaquants où l'on trouve toujours 17 coureurs. Une différence faite dans la descente du Grand Ballon. Tony Gallopin n'a pas apprécié que l'on prenne prudemment cette descente et du coup il a pris des risques emmenant avec lui le seul Chérel. Ces deux-là naviguent à 3 minutes. Le peloton maillot jaune et lui à 8 minutes 10. Il a un petit matelas, Tony Gallopin. Il est en train d'embaucher Michael Chérel, coureur de l'équipe AG de Zerla Mondial. Il y a des accords dans le peloton et Tony Gallopin a tout à gagner, à demander à son compatriote de rouler pour lui. Tout se récupère, rien ne se perd dans un peloton. Gallopin et Chérel lancés en contre-attaque. Tony Martin a priori étape gagnée, la troisième étape de sa carrière sur le Tour de France après deux succès sur le contre-la-montre en 2013 et 2011.
Voilà, et le maillot jaune de Gallopin qui est en train de se fabriquer, se tisser petit à petit, puisque désormais l'avance du groupe Gallopin sur le groupe maillot jaune est de 5 minutes et un peu plus de 10 secondes. Donc on rappelle qu'il avait ce matin 3 minutes 27 de retard sur Nibali. Il sera dans quelques minutes maillot jaune du Tour de France.
Tony Gallopin relayé à l'avant de la contre-attaque par Pierre Roland, par Cyril Gauthier. On a vu le maillot blanc et noir de Brice Feillu. Comme disait Georges tout à l'heure sur la moto, il y a une alliance tricolore et ce n'est pas tous les jours que ça arrive dans le vélo, loin de là. Peut-être Tony Gallopin récolte-t-il en ce moment ce qu'il a semé ces dernières années, un coureur apprécié du peloton.
La moto RMC qui se trouve justement en compagnie du groupe de poursuivants, le groupe Gallopin. Georges,
Oui, Tony Galopin qui s'est positionné en ce moment même à l'avant de ce groupe qui est en file indienne, les deux coureurs en Europe car juste derrière lui Pierre Roland et Cyril Gauthier. Fred, tu parlais de Brice Feuillu qui est venu se mettre à l'avant tout à l'heure. Et bien figurez-vous que c'est Tony Galopin qui est descendu, qui s'est laissé descendre dans ce groupe de poursuivants, qui s'est mis au niveau de Brice Feuillu. Ils ont parlé ensemble, à mon avis il a dû lui dire un truc du genre viens m'aider s'il te plaît. Et on a vu Brice Feuillu se positionner à l'avant pour prendre un court relais, mais un relais au moins symbolique pour en tout cas voir cette coalition française pour aider Tony Galopin. Mais c'est dans l'intérêt évidemment de Europcar et de Pierre Roland de récupérer du temps au classement général. Ouais, il passe à l'instant ce groupe de poursuivants et Tony Galopin sous les 3 km.
Et pendant ce temps-là, Tony Martin est dans la dernière ligne droite avant de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Tony Martin, incroyable numéro réalisé aujourd'hui par le coureur allemand.
Et il va enfin pouvoir lever les deux mains, les deux bras, lui qui a l'habitude de remporter des succès contre la montre où il n'est pas du tout question de faire de fantaisie sur le vélo. Cette fois, Tony Martin a pu en profiter jusqu'au bout. Est-ce qu'il s'est lâché les deux mains de son vélo? On va pouvoir vérifier ça. Attention, c'est beaucoup plus qu'un simple rouleur. Tony Martin, il l'a prouvé aujourd'hui. Il l'a déjà remporté. Il l'a déjà montré.
Une nouvelle victoire allemande.
Exact.
La cinquième de ce tour.
Après celle de Kittel et de Greipel au sprint, Tony Martin complète le tableau allemand en cette journée de finale de la Coupe du Monde. Victoire de Tony Martin, 29 ans, l'Allemand qui remporte sa troisième étape sur le Tour de France ici à Mulhouse.
Et pendant ce temps-là, l'Alliance des Français fait le ménage dans le groupe de poursuivants. On se relaie régulièrement, Pierre Roland, Galopin, Feuillu, tous les autres se relaient pour tenter évidemment de prendre le plus de temps possible au peloton maillot jaune. Tony Galopin qui dans quelques minutes maintenant, dans environ un peu plus de 2 minutes, va franchir la ligne. Il faudra ensuite patienter 3 minutes 28 avant de savoir si les maillots jaunes. La moto RMC, Georges, pour les derniers kilomètres de Tony Galopin.
Ouais, pour une scène sympa, à moins de 2 km de l'arrivée. On a vu Tony Galopin dans les dernières positions. Il avait l'air d'y hocher la tête de gauche à droite. Il avait l'impression de ne pas y croire. Et il y a Thiago Machado, le portugais. Je crois que ces deux-là étaient ensemble, c'est Radio Shack, qui est venu à sa hauteur, qui lui a donné une petite tape dans le cuissard, comme pour lui dire c'est bon, c'est pour toi. Voilà Tony Galopin dans les dernières positions de ce peloton, de ce groupe de poursuivants, qui est en train de réaliser en tous les cas dans ces derniers hectomètres, scène sympathique.
Il y en a un autre qui doit être content dans ce groupe de contre-attaque, c'est Fabian Cancellara, le Suisse de la formation Trek. Effectivement, ces deux-là étaient coéquipiers il y a encore quelques mois, quelques années, et Tony Galopin était d'ailleurs considéré comme le petit protégé de Spartacus. Cancellara qui a dû motiver Tony Galopin dans cette contre-attaque. On a manqué la victoire d'étape aujourd'hui, mais on est peut-être en train de récompenser un coureur apprécié du peloton à 900 mètres de l'arrivée pour le groupe Roland Galopin.
Frédéric, qu'on n'a pas vu beaucoup Cancellara à la barre dans les 20 derniers kilomètres.
Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu venir filer un coup de main à son ancien coéquipier.
Il vient aux 400 mètres, mais il est encore qu'en cinquième position. Non, Cancellara, il a dû prendre un relais, hein. c'est tout. Donc c'est pas très sympa.
C'est pas très sympa de la part de Spartacus. Allez, le groupe devant qui est en train d'en terminer dans quelques instants, emmené par les coureurs de la BMC. Tony Galopin est un peu plus loin. Je ne sais pas si on va sprinter ou il y en a quand même qui vont vouloir sprinter.
Pour la deuxième place, ça vaut le coup quand même.
Il y a des points pour le maillot vert avec un Belge qui est bien placé. C'est Greg Van Avermaet calé dans la roue d'Amael Moinard. On sprint là pour la deuxième place. Amael Moinard, le vainqueur d'une étape du Tour du Haut-Var cette année, il est en forme. Il lance Greg Avermaet, le Belge, en troisième position. Fabian Cancellara. Cancellara calé dans la roue de Greg Van Avermaet. Van Avermaet qui va aller peut-être décrocher cette deuxième place, débordée dans le final par Cancellara.
Je ne crois pas.
Il me semble, mais c'est...
Je pense.
Le druide est sur la ligne d'arrivée là-haut dans sa tribune. Il a vu de ses yeux vus. On va attendre la photo finish. A priori, selon nous trois, Christophe, Luc et moi-même, Cancellara a toutefois pris la deuxième place.
Pierre-Yves Leroux sur la ligne d'arrivée avec Marion Rouge, je crois, la compagne de Tony Galopin.
Exactement, ils sont tous les deux avec les embrassades là entre Tony et Marion Rouge qui a réussi à faire le bisou qu'elle avait promis tout à l'heure avec Tony Galopin qui est posé sur son vélo. On va attendre le micro.
Mais ton jeune, mon amour, demain.
Pas d'interview, hein.
Mais ton jeune, demain.
C'est offert aucune photo, t'es trop près.
On va se mettre au chaud.
Tu veux être en jaune, dit-elle, Marion Rousse à Tony Galopin qui essaye de trouver le deuxième souffle, et alors qu'il est dirigé là maintenant vers la zone protocolaire, on sent beaucoup beaucoup d'émotions. Évidemment, c'est rare, hein, d'être accueilli par sa future épouse sur la ligne, parce qu'elle était au milieu de la route dans sa robe rouge. Et Tony Galopin qui rentre maintenant vers la zone protocolaire avec les interviews qui vont suivre, mais on sent qu'il est vraiment fatigué. Il a beaucoup beaucoup donné, Tony Galopin, dans ses derniers kilomètres, et il va pouvoir aller maintenant se reposer un petit peu, quelques minutes, avant de profiter grandement de ces moments qui vont être évidemment plein d'émotions. Un maillot jaune sur le Tour de France pour Tony Galopin.
L'événement du jour, c'est donc évidemment le maillot jaune sur les épaules ce soir de Tony Galopin, qui a réalisé un fantastique numéro aujourd'hui. Enfin, celui qui a réalisé le fantastique numéro, c'est Tony Martin. Mais Tony Galopin, Thierry, tu en conviendras, a fait quelque chose d'énorme aujourd'hui. Il a sauté dans la bonne échappée, qui est restée longtemps, jusqu'à l'arrivée d'ailleurs en chasse-patate. Mais au bout du compte, il y avait ce maillot jaune à aller décrocher. Et c'est vrai que c'est un plaisir de voir ce garçon de 26 ans. On parlait déjà de lui depuis quelques jours. C'est vrai qu'il réalise un magnifique début de tour, Lucho. Hein.
Ah, et là, depuis le magnifique, début, magnifique. Des pavés, il était dans
on
le
connaît
coup.
Les qualités de Tony Galopin, hein, et c'est pas étonnant de le voir,
mais
avec alors, la tenue jaune aujourd'hui.
On connaît ses qualités, mais le grand public ne connaît pas ce garçon.
Parce que
il est
c'est,
moins
c'est
connu
parce que
qu'un Vauclair, qu'un Roland, qu'un Pinot, alors que pourtant il est de la même génération que Roland et Pinot, même peut-être un peu plus âgé qu'eux. Mais c'est un garçon qu'on connaît assez peu. Pourtant, son palmarès est bien fourni.
Ouais, mais il y a des coureurs qui savent communiquer, d'autres moins. Peut-être que Tony est moins communicant que et c'est moins se vendre que peut-être Vauclair ou Pierre Roland. C'est même une certitude. Il a autant, voire beaucoup plus de qualité. Et il faut pas oublier quand même qu'il gagne la Classique Saint-Sébastien, ce qui n'est pas une petite affaire, parce que c'est gagner la Classique Saint-Sébastien en fin de saison, c'est énorme. Sans compter la Coupe de France et tout ça.
Hein.
C'est une épreuve, oui, Coupe du Monde. Donc non, Tony, c'est un garçon peut-être discret, mais là aujourd'hui, il est révélé au grand jour devant le public français, et je crois que ça ne changera rien, je pense, dans sa façon de faire et dans sa façon d'évoluer dans l'avenir au niveau communication. Il est discret, il restera discret, mais en attendant, c'est un coureur qui aura certainement l'un des plus grands palmarès français dans les années à venir.
Surtout au service des autres et dans des équipes étrangères, donc ce qui fait qu'on le connaît un peu moins que les autres.
Ouais. Cyril, est-ce qu'il a l'étoffe pour être un leader d'équipe, Tony Galopin? Est-ce que, justement, après ce qu'il est en train de montrer sur le Tour de France, il peut changer de statut dans les années à venir, dans les saisons à venir?
C'est fait, hein. Il a changé officiellement de statut aujourd'hui.
Ouais.
Alors, non, son palmarès, c'est vrai qu'on ne le connaît pas énormément. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'il court dans des équipes étrangères.
Donc, comment on explique d'ailleurs qu'il court pour des équipes étrangères?
Parce que son tonton était directeur sportif dans des épreuves étrangères, sauf cette année, puisqu'il est dans l'équipe Lotto. Mais n'oublions pas que pendant 2 ans, il a été l'équipier de luxe de Fabian Cancellara. Et quand vous regardiez les images sur les Tours des Flandres, les Paris-Roubaix, les Kurn-Bruxelles-Kurn, les Edvolk, qui c'est que vous aviez devant Cancellara qui le mettait à l'abri? C'est Tony Galopin. Et il a pris du vent, il en a bouffé du vent. Mais pendant ce temps-là, vous ne faites pas un palmarès. On parle de Cancellara, mais on ne parle pas de lui. Mais il fait ses classes. Il fait ses classes et puis il prend de la caisse.
De l'expérience.
Il fait 3e il y a 2 jours. Rappelez-vous, il y a 2 ans, dans l'étape de Porrentruy, il lui manque une centaine de mètres pour basculer avec Thibaut Pinot. Et c'est pas Thibaut Pinot qui l'aurait battu au sprint. Or, c'est Thibaut Pinot, on n'a parlé que de lui, mais on n'a pas parlé de Tony Galopin. Mais Tony Galopin n'était pas dans une équipe française. Donc en France, on a l'habitude de communiquer, de bien communiquer entre Français. Mais quand vous êtes à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui est maillot jaune, c'est lui qui est en train de devenir le leader du cyclisme français. Quand on est maillot jaune dans le Tour de France, on est leader du cyclisme français. Mmh. Quand on devient maillot jaune du Tour de France, il n'est pas question de prendre la grosse tête. Et là, il y a aucun secret. Il prendra pas la grosse tête, parce que sinon, il y aura le papa. Sinon, il y aura,
le tonton
qui sera là pour lui faire « Hey, gamin, on reste les pieds sur terre, on est des galopins, hein, donc on s'envole pas. » Hein,
non, mais il est bien éduqué.
Il y a une éducation au niveau de la famille, comme dit Cyril.
Donc, il ne prendra pas la grosse tête. Ceci dit, il va falloir qu'il parle, il va falloir qu'il dise « Attendez, moi, j'ai besoin qu'on d'avoir autour de moi une équipe aussi dans certaines circonstances.
Il a parlé ce soir. On va l'écouter. Tiens, on va l'écouter avant de poursuivre notre débat. Tony Galopin tout à l'heure au micro d'Olivier Schwartz.
C'est indescriptible, je pense. Allez, même si j'imaginais ça il y a quelques jours entre les rêves et la réalité, il y a toujours une différence. Et être en jaune ce soir, c'est incroyable. C'est plus qu'une fierté, je pense que ça va être incroyable. Même si j'aurais préféré peut-être une étape un peu plus facile. Demain, ça s'annonce compliqué avec cette arrivée à la planche des Belles-Filles. J'ai fait il y a 2 ans, je sais que c'est vraiment difficile, surtout si les leaders décident d'avoir la première grande explication. Donc on verra, je vais essayer de récupérer au maximum et de faire de mon mieux demain.
Merci. Aimer vivre caché, ça va être compliqué maintenant.
Ouais, c'est vrai que j'aime pas forcément être à la lumière, mais voilà, ça, on sait ici, on a le maillot jaune, c'est vrai que c'est pas le choix, mais voilà, ce soir c'est pas un problème, et vraiment je profite de ça.
Voilà, Tony Galopin, donc le nouveau maillot jaune de ce Tour de France, était au micro de Pierre-Yves Leroux, juste derrière la ligne d'arrivée. Il rigole quand on lui dit maintenant vous allez être à la lumière. Ben oui, il va falloir se montrer là. Ce maillot jaune attire tous les projecteurs, hein, Lucas. Ben,
vous avez la réponse, pourquoi il n'est pas médiatique, il n'a pas
c'est
envie
lui
de la
pas
lumière.
C'est lui qui n'a pas envie. Ouais.
Mais il le dit. Maintenant, il peut aussi changer parce que il faut changer dans
oui,
ce métier-là.
Parce que la médiatisation en France, elle vient du Tour de France.
Cyril, bien sûr.
Avant tout. Donc là, aujourd'hui. Toute la France va apprendre à le découvrir.
Mais pas que la France. Hein,
non, mais là, je parle
la médiatisation en France.
Oui, mais mention spéciale à Tony en plus, parce que non seulement il travaille pour Van den Broek, mais en plus, entre parenthèses. Mais en plus, dans les étapes de plat, il emmenait aussi Greppel. Donc. Que ce soit plat ou monté, il était toujours au charbon.
Toujours à la barre.
Toujours au charbon. Et malgré cela, ben, il nous prend le maillot dans les étapes de transition.
Il a bien joué le coup. Il a joué le coup au moment où il fallait
le faire.
C'est clair.
C'était donc dimanche soir, Tony Galopin était en jaune, vous l'avez compris, on revit les moments forts sur RMC de ces 10 premières étapes du Tour, avant de partir en direct à Besançon à 17h pour la journée de repos avec des invités, la Dream Team et Fred Adam. Dans un instant on revient sur la belle étape d'hier et les fortunes diverses de Nibali et de Contador, et puis je vous donne une des informations de l'après-midi, l'abandon du Suisse Fabian Cancellara qui va se préparer pour les championnats du monde.
RMC ne s'arrête jamais. Donnez votre opinion tout de suite, c'est possible. Le débat continue en ce moment sur rmc.fr.
Fabian Cancellara qui abandonne donc, et ils ne sont plus que 179 coureurs sur ce Tour de France. Ils étaient 180 ce matin. Le Suisse qui a donné raison de son abandon par communiqué. Alors il n'y a pas de blessure particulière pour Fabian Cancellara. Il préfère se retirer tout simplement parce qu'il veut préparer les championnats du monde. Je vais vous lire les propos de Cancellara qui a envoyé un petit communiqué aujourd'hui parce qu'il se retire. Je veux me consacrer, je veux faire une pause. J'ai déjà couru 59 jours cette année et je veux me consacrer au championnat du monde. Alberto Contador, lui qui a abandonné hier avec cette fracture du tibia suite à une chute, il a pris un avion à la mi-journée, avion affrété par son patron, Monsieur Tinkoff, de l'équipe Tinkoff Saxo, pour rentrer à Madrid et pour se faire soigner le plus rapidement possible entre son tibia, son genou, savoir s'il doit être opéré. Alberto Contador qui veut essayer de remonter sur le vélo le plus rapidement possible. Je vous rappelle que Chris Froome, qui lui aussi avait abandonné, a tweeté hier à l'intention d'Alberto Contador en lui expliquant qu'il l'attendait pour la Vuelta. Pourquoi pas? Alors pour Froome, ce sera peut-être possible après s'être remis de ses fractures à la main et au poignet. Pour Contador, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour l'Espagnol. Le 32-16, vous êtes ouvert aussi, journée de repos ou pas. On reviendra en longueur donc sur ce Tour de France dans l'intégral Tour en direct de Besançon à partir de 17h, 18h, votre rendez-vous Saint-Été, c'est l'intégral Sport. On fera un tour complet de l'actualité, on ira aussi du côté de l'Allemagne parler un petit peu football parce qu'il y a eu des petits garçons qui sont rentrés. Des grands Allemands revenus avec le titre de champion du monde, la Coupe du Monde qu'ils ont présenté à 1 million de Berlignois. Et puis aussi le hashtag RMC Live, c'est via le compte Twitter évidemment, @RMC Sport. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos petites critiques sur ce Tour de France 2014.
RMC, Intégral Tour, Martial Fernandez.
16h43, dans un quart d'heure, on partira en direct du côté de Besançon, là où sont au repos les 179 coureurs de ce Tour de France. On sera avec la Dream Team, avec des invités et Fred Adam. On va d'ici là revivre l'étape d'hier, c'était dans l'intégral Tour, un 14 juillet fatal pour l'Espagnol Alberto Contador.
On est en train d'annoncer que c'est Alberto Contador qui a été victime d'une chute il y a quelques instants. Alberto Contador.
Alors c'est une chute, un incident.
Ah, non, c'est pas du tout la même image. Effectivement, c'était Michael Rogers qui avait un incident mécanique sur la droite de la route tout à l'heure. Et cette fois, au bas de la descente du petit ballon, au pied du col du Platzer-Wasel, c'est bien Alberto Contador qui a chuté sur la droite de la route. Alberto Contador qui met du temps à repartir, le cuissard arraché sur la gauche. Oh, il a tapé fort. Alberto Contador qui fait appel au service médical qui va être soigné. Grosse plaie au genou, effectivement. Le dos du maillot est complètement souillé, maculé debout. Alberto Contador qui reste debout, on vous rassure. Il a laissé son vélo sur le talus à droite de la route. La file des voitures a bien du mal à se frayer un chemin et le genou droit est en train d'être strappé par l'un des médecins du Tour de France, Alberto Contador, qui va être, selon toute vraisemblance, attendu par des coéquipiers de l'équipe Tinkoff Saxo. Son maillot est déchiré dans le dos. Il a râpé le genou droit, la hanche gauche et le dos. Il est en train de demander au médecin de se presser un peu. Cet homme est un guerrier, on le savait. Il souffre physiquement, mais il demande au médecin de faire le plus rapidement possible. Il va repartir dans quelques instants.
Et pendant ce temps-là, Cyril, me semble que le peloton a ralenti son allure. Hein. Il est de coutume d'attendre un leader du général, sauf qu'on est dans la grande bagarre.
Non, il n'est pas de coutume. Tout dépend des circonstances. Là, on est loin de l'arrivée. La bagarre n'est pas lancée. Donc, on ne lance pas la bagarre sur une attaque comme ça. Si on était sur une phase de course où la bataille est lancée, on n'aurait pas attendu. Mais là, il est pratiquement impossible d'attaquer dans ces circonstances à plus de 100 km de l'arrivée.
Voilà, Alberto Contador qui a fini de se faire soigner, qui va remonter sur le vélo, mais il boite bas. Hein. Il a l'air quand même assez touché, le leader de la formation Saxo Tinkoff. C'est évidemment un coup dur pour celui qui, après l'abandon de Chris Froome, était devenu le grandissime favori de ce Tour de France. Il est touché, sérieusement touché, Alberto Contador. Va-t-il pouvoir repartir? Va-t-il pouvoir défendre ses chances? Va-t-il
ça commence à être compromis. Oui, il faut qu'il change de chaussure.
Oui, il se passe pas mal de choses avec Alberto Contador qui vient de s'asseoir sur la droite de la route dans le talus. Il n'avait pas encore reçu l'assistance de sa voiture de directeur sportif. Contador, qui avec Nibali est l'un des deux grands favoris pour la victoire finale. N'inquiétons pas les auditeurs, Alberto Contador devrait repartir.
Il repartira à 6 ou 7 minutes du groupe maillot jaune.
Oui, il est en train d'être arrêté depuis maintenant plus de 2 minutes. Alberto Contador qui garde son calme, c'est l'information. Il y a un changement de vélo, son directeur sportif a déféré un deuxième vélo du toit, a descendu un deuxième vélo du toit. On vous rappelle que son maillot est complètement déchiré sur le haut, sa hanche gauche semble touchée. Il vient de repartir avec près de 4 minutes de retard sur le peloton. Il est resté immobilisé 4 minutes. Il n'est pour l'instant attendu par aucun équipier et il repart à un rythme piano. Il faut que la machine se remette en route.
Là, on peut pratiquement dire que, allez, à 90%, pour pas dire à 99, Contador ne peut plus gagner le tour. Il a 9 minutes de retard sur Kwiatkowski qui ne va pas lever le pied. Il faut qu'il revienne sur le peloton, mais il y a un moment où ce peloton va être obligé de se mettre en route parce qu'il ne peut pas laisser Kwiatkowski.
Oui, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs en tête de course. Puisque les coéquipiers de Nibali, Fred, sont en train de hausser le ton, évidemment. Nibali qui ne peut pas laisser Kwiatkowski s'échapper et qui évidemment a flairé le bon coup peut-être avec ce coup dur pour Alberto Contador. On assiste là à un véritable tournant de ce Tour de France 2014.
Oui, on fleure déjà, on peut sentir d'ici les polémiques qui ne vont pas manquer de se faire jour dans les minutes, dans les heures qui viennent ce soir à l'arrivée ici à la planche des Belles Filles. La tête de course est encore à plus de 93 km de l'arrivée et les Astana se mettent à rouler à l'avant du peloton maillot jaune. Tony Galopin est toujours là, mais Vincenzo Nibali a demandé à ses équipiers d'accélérer l'allure. Alors certainement pas, effectivement, comme vous venez de le préciser, pour enterrer et pour condamner Alberto Contador qui souffre à l'arrière, tout seul, isolé à l'arrière du peloton et à 4 minutes du peloton relégué. Il est en train de se faire dépanner, même si il continue de rouler. Il discutait tout à l'heure avec son manager Bjarne Riis. Il a bien du mal à se faire à ce vélo de rechange, à ajuster sa chaussure gauche. Ça y est, il repart, mais il fait quand même non de la tête au mécanicien qui lui pose des questions. Apparemment, il semble avoir un peu lâché dans la tête. Oui, il est reparti. Oui, il est physiquement sur le vélo, mais peut-être que dans la tête, il n'y est plus.
Alberto Contador qui se porte à nouveau à la portière de son directeur sportif. On se demande s'il va pouvoir continuer la course. Fred, on est un peu inquiet là, il faut bien le dire, pour Alberto Contador.
Oui, on a beau connaître le grimpeur espagnol, orgulloso s'il en est, il a de la fierté, c'est un vrai guerrier Alberto Contador. Il en a gagné des courses après avoir chuté, mais aujourd'hui c'est autre chose. On est sur le tour, le temps est pourri, le profil de l'étape est un véritable pain, c'est les montagnes russes et il reste encore 4 ascensions redoutables à escalader. 79 km de l'arrivée pour la tête de course, Alberto Contador qui effectivement a discuté avec Bjarne Riis, son manager au sein de la formation Tinkoff Saxo. Contador qui est toujours accompagné par 5 équipiers de la formation Tinkoff Saxo, mais qui galère, qui a des temps de roue libre quand il est accroché à la voiture. Autant tout à l'heure quand il est reparti qu'il a été attendu par ses premiers équipiers, ce groupe Tinkoff Saxo avec 6 coureurs au maillot jaune fluo ramarrait des coureurs, des groupes de coureurs qui sont en train de se regrouper à l'arrière pour former un groupe Eto. Autant désormais, ce groupe Tinkoff Saxo ne parvient pas à larguer les attardés. On trouve notamment un coureur comme André Greipel capable de tenir la roue d'Alberto Contador. Contador, ouais, qui pointe désormais à 4 minutes 40 du groupe Nibali, à 8:40 de la tête de course.
Alberto Contador a peut-être même sans doute perdu le Tour de France aujourd'hui sur les routes de cette 10e étape entre Mulhouse et la planche des Belles-Filles.
On va vers l'abandon. Oui, on va vers l'abandon.
Oui, oui, il est en train de s'arrêter.
Ouais, c'est l'abandon.
Alberto Contador qui s'arrête sur le côté droit de la route. Il vient d'être un de ses coéquipiers.
Consolé.
Voilà, consolé par un de ses coéquipiers. Voilà. Il met désormais pied à terre. Son directeur sportif et les mécanos qui descendent de la voiture. Alberto Contador qui met le pied à terre définitivement dans ce Tour de France. C'est l'abandon d'Alberto Contador.
Oui, Contador consolé par un équipier tout à l'heure sur la route qui descend de son vélo, qui est consolé par un compatriote à lui, le mécanicien de la formation Tinkoff Saxo. Il monte à l'arrière du véhicule. Bjarne Riis vient de sortir, lui le manager de la formation Tinkoff Saxo. Alberto Contador qui, 5 jours après Christopher Froome, abandonne la mort dans l'âme. Lui, le vainqueur des Tours de France 2007 et 2009, déclassé d'un Tour de France 2010, aura décidément tout connu sur le Tour de France. Alberto Contador qui, à 80 km de l'arrivée, jette l'éponge dans le brouillard du Platzer-Wasel, dans la descente du Markstein, avant la 4e difficulté du jour. Alberto Contador qui n'est plus à l'heure actuelle coureur du 101e Tour de France. La lutte pour la victoire finale va désormais se résumer, selon toute vraisemblance, à une lutte entre Vincenzo Nibali, Michał Kwiatkowski, Richie Porte et puis peut-être les Français qui auront une épingle à tirer peut-être dans ce jeu.
Avec Nibali qui attaque. Nibali qui attaque en tête de son groupe. Valverde semble prendre la roue. Richie Porte également. Mais la première attaque de Nibali qui contredit ce que tu disais tout à l'heure, Cyril. Il devait attendre. Finalement, c'est lui qui attaque. Donc il doit sentir de superbes jambes.
Vincenzo Nibali qui assomme le Tour de France à la banderole des 3 km avant l'arrivée. Il est capable de faire le break. Mais derrière, on essaye de s'accrocher. Effectivement, Alejandro Valverde et Richie Porte ont essayé de suivre l'attaque du champion d'Italie. Mais ils ont vite renoncé. Pourquoi ? Pour ne pas se mettre dans le rouge et pour ne pas se cramer, comme disent les coureurs. Ils ont préféré renoncer et reculer d'un cran. Derrière, la chasse est désormais menée par deux Français. Thibaut Pinot et Romain Bardet ont pris la suite de Valverde et Richie Porte. On est peut-être en train de vivre un tournant dans ce Tour de France. Les Français sont en train de s'occuper du classement général, à défaut de s'occuper du cas Nibali. Nibali qui a fait le break.
Est-ce que Nibali Ali a creusé de gros écarts là par rapport à aux
il plafonne,
anciens.
Il ouais, plafonne, il, me semble, hein. Il a fait la différence tout à l'heure sur l'attaque, mais sous l'impulsion de Richie Porte et d'un Jean-Christophe Perrault qui se met à la planche, eh bien ce groupe est en train de revenir sur Vincenzo Nibali.
Cyril, s'ils parviennent à revenir, on sait jamais, il peut y avoir une contre-attaque parce que Nibali là a l'air un peu juste, il a l'air de coincer quelque peu, non?
Oui, la victoire d'étape est jouable pour Rodriguez, je crois que c'est cuit. Il va être rejoint par Nibali, mais l'écart n'est pas important entre Nibali et le groupe de contre-attaque. Actuellement, s'il faut bouger à l'arrière pour revenir sur Nibali, il ne va pas falloir attendre, mais peut-être que Nibali a peut-être présumé de ses forces en attaquant d'aussi loin.
Voilà, Vincenzo Nibali, champion d'Italie, qui est en train de rattraper à l'instant même pour Ito Rodriguez, qui a donné des signes de fatigue depuis quelques minutes. Derrière, ils sont à environ une centaine de mètres, hein, tous les autres leaders, Fred.
Dans une trentaine de secondes dans le final de cette planche des belles filles. On vous rappelle que le final, c'est une rampe à 20% après le dernier virage. Souvenez-vous de cette image de Christopher Froome il y a 2 ans, qui devançait au sprint à l'arraché Cadel Evans et Bradley Wiggins à la 4e place. Qui trouvait-on sur cette même étape il y a 2 ans? Un certain Vincenzo Nibali, qui en l'absence de la concurrence, on vous rappelle qu'Alberto Contador a abandonné tout à l'heure sur chute après une soixantaine de kilomètres dans cette étape dantesque. Eh bien, en l'absence de la concurrence, Vincenzo Nibali s'envole peut-être vers la victoire d'étape et à coup sûr vers le maillot jaune. Nibali qui compte dans sa roue encore Joaquin Rodriguez. Le groupe Richie Porte, Perrault, Pinot et Bardet est à une trentaine de secondes.
Lucho, est-ce que tu es surpris par la prestation d'ensemble des coureurs français, des leaders français?
Non, c'est vrai que c'est une très très belle prestation des Français, surtout des jeunes. Bardet, Pinot, bon, on connaît ses qualités de grimpeur. Bardet, il prouve que vraiment il a un statut de leader maintenant au sein de la formation AG2R la mondiale. Non, c'est vraiment pas surprenant du tout et on a l'impression qu'ils même peut-être ils peuvent revenir sur le duo de devant.
Ouais, va être compliqué parce que nous venons de passer la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge.
Voilà la flamme rouge pour les deux hommes de tête, Rodriguez et Nibali. Derrière, ils sont à environ une centaine de mètres. Thibaut Pinot qui attaque sur le côté droit de la route. Fred.
Accélération de l'enfant du pays, Thibaut Pinot, qui connaît par cœur cette planche des belles filles devant Vincenzo Nibali, n'attend pas Joaquin Rodriguez qui coince. Nibali est à 700 mètres de la ligne d'arrivée maintenant, il ne lui reste plus qu'un dernier virage et cette rampe de 20%. Nibali qui va aller faire coup double ici à la planche des belles filles, étape et maillot jaune. Il lui reste 500 mètres à parcourir. Derrière, effectivement, Thibaut Pinot a attaqué sur la droite de la route, mais les écarts seront très très difficiles à faire. Vincenzo Nibali qui négocie le dernier virage, un virage à droite. Il entre désormais dans la rampe qui culmine à 20% ici sur la ligne.
Voilà, il est tout seul en tête. Nibali applaudi, follement acclamé par les spectateurs sur les deux côtés de la route. Nibali qui est donc dans le plus dur de cette étape, cette dernière rampe finale. Mais au bout, là, il voit son maillot jaune lui revenir sur les épaules. Nibali qui est en train d'écraser le tour. On n'a pas d'écart avec les autres leaders, mais Nibali va probablement remporter l'étape dans quelques instants, Fred.
Oui, Vincenzo Nibali qui a perdu son principal concurrent Alberto Contador sur chute. L'Espagnol a abandonné et l'Italien prend la relève sur ce Tour de France. Il avait pris la 4e place sur cette même étape il y a 2 ans et le voilà qui ne perd pas une seconde. Il a décidé de grappiller toutes les secondes qu'il pouvait se mettre dans la poche. Vincenzo Nibali, le champion d'Italie, qui après sa performance à Sheffield, vainqueur de la 2e étape de ce Tour, va aller remporter sa 2e étape. Lui qui avait été impressionnant sur la 5e étape en direction d'Arenberg sur les pavés. Vincenzo Nibali qui ne se retourne pas et qui n'observe aucun temps de roue libre, qui met le pouce dans la bouche, probablement en hommage à son enfant ou à un bébé né il y a peu. Derrière, c'est la débandade.
Thibaut Pinot va terminer 2e. Ouais, Thibaut Pinot qui a réussi à rattraper Rodriguez et qui va franchir la ligne avec un retard d'une quinzaine de secondes seulement. Même pas, 13-14 secondes de retard pour Thibaut Pinot.
14 secondes de l'étape. Thibaut Pinot, mais là on est sur des poussières. Alejandro Valverde prend la 3e place à la photo finish, peut-être devant Jean-Christophe Perrault à 18 secondes. Derrière, Bardet prend la 5e place, Van Garderen 6, Porte 7. Voilà le groupe des costauds. Ils ne sont que 7 à se disputer ce qu'il reste des places d'honneur sur ce Tour de France. Les 7 plus costauds s'appellent donc, on va les récapituler, Nibali, Pinot 2e, 3e Perrault, 4e Valverde. Derrière, on a Bardet et on a Richie Porte qui est bel et bien là. Derrière, ce sont des etc. Effectivement, on peut se dire à la veille d'une journée de repos où l'on tirera tous les bilans et où on fera l'état des forces en présence, on peut se dire que Christopher Froome et Alberto Contador vont nous manquer dans les semaines à venir.
C'était Fred Adam au commentaire. On va le retrouver dans quelques instants, Fred Adam, du côté de Besançon pour cette journée de repos. Il sera avec toute la Dream Team des invités autour de lui. On aura les speakers du Tour de France, notamment. On aura aussi Brian Cocker qui a brillé sur les premières étapes de sprint. Et puis nous, on se retrouvera dans l'Intégral Sport à partir de 18h. On reviendra sur cette journée de repos, notamment avec Cyril Guimard. Et puis on ira aussi du côté du pays des champions du monde avec la grande parade du côté de Berlin. Ils étaient 1 million de Berlinois aujourd'hui pour accueillir les champions du monde. Dans un instant, 17h, 18h, l'intégral tour en direct de Besançon avec Fred Adam.
RMC, Intégral Tour.